Du 24 juin au 5 novembre, vous pourrez faire transhumance au pays de Vassivière grâce à l'exposition Parcours d'œuvre du même nom, présentée par le Centre international de l'art et du paysage de l'île de Vassivière et le Centre national des arts plastiques, au CIAP donc, et dans le bois de sculpture, mais aussi dans les communes du lac de Vassivière et sur votre radio associative favorite, Radio Vassivière. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Marianne Lanavert, directrice du Centre d'art de l'île de Vassivière, Reto Pulfer, artiste actuellement en résidence, mais qui a aussi reçu une commande de création d'œuvres pour l'occasion de Transhumance, et Yves Robert du Centre national des arts plastiques. Dans le studio avec nous, Marianne Lanavert et Reto Pulfer, bonjour.
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 Avant de commencer la discussion autour de cette ambitieuse programmation, je vous propose d'écouter un interview réalisé il y a quelques heures avec Yves Robert, le directeur du Centre national des arts plastiques, partenaire essentiel de cette transhumance. Monsieur Robert, nous vous appelons aujourd'hui en raison du partenariat qui lie le CNAP, Centre national des arts plastiques, et le CIAP, Centre international de l'art et du paysage de l'île de Vassivière, pour l'exposition Parcours d'œuvre Transhumance. Alors le CNAP est assez peu connu du grand public. Depuis quand existe-t-il et pourquoi a-t-il été créé ?
Alors, le CNAP, effectivement, n'a pas une mission d'intervention directe auprès du public, puisque c'est une institution qui a deux grandes missions. D'une part, de concevoir et d'alimenter, de gérer une collection qui s'appelle le Fonds national d'art contemporain, collection qui naît avec la Révolution et qui, en quelques mots, vise à accompagner la création de son temps, et ce, depuis l'origine. Avec pour raison d'alimenter les musées, les centres d'art, tout emprunteur d'œuvres contemporaines, moins contemporaines, parce qu'au fil du temps, on se retrouve avec une collection d'œuvres qui datent du XVIIIe jusqu'à cette toute dernière période, afin de parfaire leurs projets d'exposition et, à tâche pour CNAP, de concevoir également des projets de partenariat, ça et là, en France comme à l'étranger, avec tout type de partenaires. Donc, d'une part, la gestion de cette grande collection nationale, on pourra revenir sur ce qu'elle comprend, et d'autre part une mission de soutien aux artistes et à tous leurs partenaires, que ce soit les galeries, les restaurateurs, les éditeurs, donc c'est tout un nombre de programmes de soutien qui visent là à accompagner les galeries sur les foires à l'étranger, là à accompagner des éditeurs sur des projets éditoriaux liés nécessairement à l'art ou à l'histoire de l'art, là à accompagner des galeries pour la première présentation d'un art institutif, ça s'appelle l'aide à la première exposition, là à accompagner des producteurs pour des films qui nécessairement ne sont pas dans le champ du cinéma, mais sont à mi-chemin entre le réel, le documentaire et la fiction, et qui touchent nécessairement au champ de l'art. Donc voilà, rapidement résumé les deux grandes missions, des missions annexes et essentielles également, qui ont trait au design graphique, puisque nous sommes un des lieux ressources, ou plutôt un lieu des lieux de veille du design graphique en France, et quelques missions d'accompagnement des œuvres que nous avons dans l'espace public, puisqu'une partie, voire l'essentiel des commandes dites nationales, donc de l'État sur l'ensemble du territoire français, sont déposées au sein du CNAP, et c'est nous qui nous occupons de la valorisation de ces œuvres, à travers quelques applications, comme Parcours par exemple récemment avec le Louvre, ou une application que nous mettons en place avec le domaine de Kerguénec en Bretagne, donc pour accompagner ces œuvres vis-à-vis de là, du public directement. Mais c'est le seul endroit où nous sommes en rapport direct avec des publics. Le reste du temps, ce sont aussi les, comme j'ai l'habitude de dire, des autres musées, centres d'art et autres institutions qui sont le lieu de rencontre entre nos œuvres et le public.
Comme par exemple les FRAC ou les centres d'art contemporains.
Comme les FRAC ou là, à présent, le centre d'art de Vassivière à qui nous déposons. Nous prêtons deux œuvres le temps de cette exposition temporaire. Alors il est vrai que là, on est dans un cas, d'ailleurs c'est celui que je souhaite le plus présent au CNAP, de partenariat où les deux parties s'entendent pour voir quelles peuvent être les œuvres qui sont exposées. Et dans le cas de Vassivière, on est allé un peu plus loin puisqu'on a commandé à cette occasion deux nouvelles commandes publiques. Vous avez cité Pulfer, c'est tout récent. Et ce sont deux nouvelles pièces, Eliana Mota, qui seront données à voir à Vassivière à compter de cette inauguration.
En tant que directeur du Centre national des arts plastiques, quelles sont les inflexions que vous pouvez donner à ces orientations, et est-ce que ces missions sont des missions déléguées par l'État ?
Alors, c'est un établissement public de l'État. C'est-à-dire, le CNAP, c'est le bras armé du ministère de la Culture s'agissant des arts visuels, un des bras armés. C'est une structure qui est c'est un établissement public de l'État composé pour l'essentiel, mais pas uniquement, de personnel mis à disposition par le ministère de la Culture et dont les missions sont très clairement définies par un décret de l'État. Mmh. Ensuite, les inflexions, c'est dans la façon de procéder, c'est les modes de partenariat, c'est avec qui nous désirons travailler, c'est la composition des commissions, c'est le choix des acquisitions, puisque cette structure est un établissement public, donc juridiquement autonome, et qui est libre quant à sa politique programmatique. C'est-à-dire que ça n'est pas l'État qui décide de travailler avec Vassivière, c'est Vassivière et le CNAP qui s'entendent à travailler ensemble. Oui, je vous en prie. La propriété, des œuvres appartient à l'État. L'établissement gère cette collection qui appartient à l'État avant que le CNAP n'existât, puisque le CNAP, ça existe depuis les années 80. Avant, ça n'existait pas en tant qu'entité, en tant que personne morale. Il y avait déjà cette collection nationale, puisqu'elle existe depuis la Révolution. Mais elle était gérée directement. Ça a bougé au fil du temps, là, par un service des Beaux-Arts. Enfin, ça a bougé au même titre que l'organisation de l'État et de ses établissements publics se modifiait.
Vous parliez tout à l'heure de la collection, dont certaines pièces, du coup, ne sont plus du tout contemporaines.
Plus du tout, nécessairement. Elles étaient contemporaines lors de leur acquisition. Et mécaniquement, le CNAP est toujours contemporain de son époque. C'est-à-dire que nous accompagnons la création en train de se faire.
Où sont les œuvres qui appartiennent, qui sont donc la collection du Fonds national des arts plastiques?
Alors, il y a trois grands cas. C'est grossièrement une collection d'un peu plus de 100 000 œuvres, ce qui en fait l'une des plus grandes collections publiques. Ces 100 000 œuvres sont pour 65% déposées. Déposées où? Dans des mairies. Dans de très nombreuses mairies, quand il y a des œuvres dans la salle dite communale, des mariages, je ne sais trop quoi, les œuvres déposées par l'État sont sur l'inventaire de l'État. Déposées dans des églises, déposées dans des préfectures, dans des ambassades, dans tous les services de l'État, les ministères, le secrétaire d'État, Matignon, l'Élysée, et surtout, et c'est sur quoi on veille, dans les musées, de façon permanente, et enfin, font usage de prêts pour des expositions temporaires. C'est-à-dire qu'une de nos missions, c'est faire vivre cette collection à travers des prêts et des dépôts. Donc soit par des réponses à des sollicitations qui viennent de concepteurs d'exposition, de commissaires, de conservateurs, soit parce que le CNAP de lui-même décide de travailler avec d'autres pour la conception d'exposition. Là, en ce moment, une expo finie à Bogota, au Musée Banco de la République, c'est une initiative conjointe du CNAP et du musée de voir comment on pouvait montrer une scène française à travers les collections du CNAP à Bogota pendant quelques mois. Et cette chose-là se répète de façon assez régulière. L'intention est de travailler aussi bien à Vassivière qu'avec le Musée national de Chine, où je présenterai des œuvres au printemps prochain. C'est-à-dire que vraiment ce qui m'intéresse, c'est que ces œuvres sortent de ce lieu de stockage et de gestion des collections, qu'elles soient données à voir avec le public, de façon, dans des considérations, très différentes les unes des autres, dans des temporalités différentes, dans des modalités différentes.
Est-ce que dans le cadre précis de Transhumance, ça joue sur des missions bien particulières du CNAP?
C'est au cœur des missions du CNAP. C'est au cœur des missions du CNAP, puisqu'on trouve à la fois cette idée de déposer ou de prêter des œuvres, et on trouve aussi l'idée de commander à cette occasion, ça c'est moins courant, des œuvres. Il se trouve ce sont des œuvres à protocole, mais des œuvres qui sont motivées par l'exposition à Vassivière. Les deux commandes publiques qui naissent ici n'auraient probablement pas été deux commandes que nous aurions passées s'il s'était agi d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Je cite Nancy par hasard, vous voyez. Donc ça, c'est effectivement un apport complémentaire du CNAP à ce projet, parce qu'il nous a semblé que c'était un projet qui devait être soutenu tant que nous en sommes partie prenante.
Alors pouvez-vous
le CNAP est à la fois un acteur et un prêteur. Il est plutôt complice du lieu, plus qu'un lieu strict dans lequel on vient chercher des œuvres. D'ailleurs, l'expo est un commissariat entre le Centre d'art d'une part et le CNAP à travers Sébastien Faucon, qui dirigeait jusqu'à peu la collection en plastique du CNAP, et qui est désormais du reste directeur du musée départemental de Rochechouart, c'est-à-dire pas très loin finalement
de chez nous.
Du Centre d'art, voilà.
Est-ce que la sélection des œuvres donne un aperçu cohérent par rapport à la diversité de la collection du CNAP?
Je ne me suis pas du tout posé cette question-là. La collection art plastique du CNAP, enfin, il faudrait déjà restreindre à la collection art plastique, et je ne pense pas, parce qu'il faudrait beaucoup plus d'œuvres. Mais le CNAP n'est pas une collection cohérente, en fait. C'est une collection qui ne peut pas être cohérente puisqu'elle est délibérément, délibérément large. C'est-à-dire, quand je dis on tente d'être capteur, on va capter des objets qui peuvent être très différents les uns des autres et qui pour autant nous semblent devoir accéder dans une collection nationale. Ils sont pas. On réfléchit pas intelligent, il est juste, enfin, en tous les cas, ça peut rentrer dans le process de décision, mais ce n'est pas la décision majeure. On ne va pas acheter une pièce de X parce qu'on se dit elle sera juste au regard de la pièce de Y. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais ce n'est pas tout le temps le cas. On va l'acheter parce qu'elle nous semble juste de rentrer dans les collections nationales. Et on va acheter celle de Y qui peut être tout à fait différente, délibérément différente. Et ça, ça tient vraiment à notre mission que d'être. C'est pas un regard personnel sur une collection, c'est un regard collectif. Et ce collectif bouge par ailleurs avec le temps, puisque tous les 3 ans, nécessairement, les membres changent. Ce qui fait qu'au fil du temps, on est plutôt face à un objet et à une collection très hétérogène. Ça en fait aussi une grande chance, parce que ça permet d'abord à l'histoire de faire son travail, et l'histoire nous montre que des choses qui, à un moment, n'ont pas été lues, peuvent être relues. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de choses qui seraient... définitivement perdu. Il y a inévitablement des œuvres qui, à un moment ou à un instant T, peuvent sembler médiocres, et puis on s'aperçoit, et ça c'est plutôt génial, qu'une chose peut être revue, réinterrogée, au gré de tout un tas de questions, qu'elles soient strictement esthétiques ou nécessairement politiques. Et la grande chance du CNAP, c'est avoir comme ça 2 siècles d'acquisition publique, avec des objets qui témoignent d'un regard à un instant. Et comme les regards sont modifiés, c'est une accumulation de tous ces regards qui fait la collection. Et ça, c'est une vraie chance. Il y a peu de collections publiques, si vous voulez, qui soient aussi libres dans leurs gestes d'acquisition. Puisqu'on n'achète pas en se disant, j'ai 2 tableaux de Matisse. D'ailleurs, on n'achète pas de Matisse. Il faut acheter Matisse, on s'en prend, et ça a été fait. Donc aujourd'hui, ce serait plus à l'ordre du jour. Il m'en faudra un 3e. Ça peut être un raisonnement muséal. Mais s'il manque le 3e Matisse, ben tant pis, il fallait l'acheter dans son temps. Donc il y a des choses qui ont été nécessairement loupées, ce qu'on aperçoit aujourd'hui. Et peut-être qu'au moment où ces choses ont été loupées, personne n'est en conscience de pouvoir dire ce sera loupé. Évidemment. Et ce qui est intéressant dans le travail que permet cette collection, c'est de réinterroger les corpus. C'est pour ça qu'on en place des projets de recherche sur les collections qui permettent de vérifier et de générer des hypothèses sur la qualité de celle-ci.
Comment ça procède ?
Par exemple, on a lancé des projets de recherche, on a invité des curateurs, des chercheurs, des universitaires, des artistes, en leur disant, on vous invite à porter un regard sur les collections. Vous nous proposez des modes d'approche et vous tentez de voir ce qui peut vous intéresser là-dedans sans a priori. En se disant, de cet exercice-là, peut sortir des corpus où on peut découvrir des œuvres que nous ignorerions. Voilà, c'est un peu aussi le travail d'une mission de récollement qui a pour fonction d'aller voir toutes les œuvres qui sont déposées par le CNAP sur l'ensemble du territoire. Puisque je dis bien, on en a de partout. Et on en a de partout dès le début. Alors après, pour plusieurs raisons, c'est que à la Révolution, parmi les décisions, on crée cette collection nationale avec une première idée généreuse qui est de dire on achète et on partage l'idée de beauté, on achète à des artistes vivants. Alors tout ça aujourd'hui sera à réinterroger fortement, mais c'est quand même dès le début dans les prémices de cette collection publique. Et par ailleurs, très vite, on s'aperçoit que c'est aussi en faire un usage politique, le mot serait trop fort, mais on constate par les dépôts qui sont faits la volonté de faire exister l'idée de nation. C'est-à-dire que dans les premiers dépôts, vous trouvez déposé au nom des villages, par exemple, du centre de la France, des paysages de bord de mer, de Normandie. À cette époque, la photo n'existe pas. La seule façon de donner à voir un sentiment de nation ou de territoire, ça va être essentiellement par la peinture. Et ça, c'est assez génial. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des dépôts dans tout un tas de communes françaises, des pièces bonnes ou pas bonnes, j'ai envie de dire, c'est même une question secondaire pour moi.
Oui, la charge historique que permet, que porte cette collection est peut-être plus grande que la question de savoir si artistiquement, tous les choix ont été excessivement pertinents au regard de l'histoire, en fait.
Et on sait bien que les choix n'ont pas été excessivement pertinents et on continue aujourd'hui, on continue probablement à ceux qui regarderont dans 30 ans les acquisitions que nous sommes en train de faire, s'interrogeront sur certains de nos choix nécessairement. Parce que d'abord le goût change, parce que l'histoire permet des agencements différenciés au fil du temps et c'est pas dramatique du tout. Ce qui est important, c'est que pour autant, il y ait quand même des acquisitions qui marquent la collection qui marque l'importance de certains artistes au moment où ils en ont le plus besoin. C'est-à-dire quand on achète, c'est aussi, c'est pas du soutien, on achète pour une collection. On sait que ça participe aussi à l'existence d'un artiste. Un artiste bien qui, crée, qui n'est pas acheté, qui n'est pas donné à voir, c'est plutôt problématique, sauf s'il le décide. Mais tous n'ont pas décidé, certains le subissent. Donc c'est plutôt, pour revenir au CNAP, une institution qui a pour mission d'être d'accompagner le champ de l'art et de la création dans le champ de l'art visuel, enfin du design.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter la jeunesse de Transhumance de votre point de vue ?
Je pense que c'est simplement une rencontre entre Marianne Anavert et nous-mêmes qui a donné lieu à l'idée de se dire comment travailler ensemble. Et à cette occasion-là, comment rejouer certaines œuvres dans l'espace public, extérieur en tous les cas, et à cette occasion-là, à nouveau, de se dire quelles œuvres, acquisitions récentes, pourraient par exemple être données pour la première fois à voir, plusieurs acquisitions qui sont très très récentes, et voir des, par ailleurs, pardon, des pièces d'importantes qui ont été l'objet de nouvelles restaurations majeures.
Qu'est-ce que vous vouliez rajouter ?
Moi, je suis très heureux de ce partenariat. Ça, par contre, je le dirai samedi, s'il y a un moment, j'ai l'occasion de le dire avec ce centre d'art, puisque mon souci, on est dans un pays, pour moi, bien trop centralisé. Et ce sur quoi je me penche le plus, c'est de veiller à ce que des projets émergent, non pas à Paris pour les Parisiens et les touristes de passage, mais précisément pour tous ceux qui... ça et là, pour des projets très ancrés et plutôt de façon quotidienne. Donc, de ce point de vue-là, Vassilière répond tout à fait
à ce désir,
à un partenariat et à le souhait de s'engager auprès de certaines de ces structures.
Bah, Yves Robert, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci et peut-être à samedi.
Retour sur le plateau de Radio Vassilière avec nos invités. Marianne Lanavert, vous êtes directrice du Centre d'art et du paysage de l'île de Vassilière. Avez-vous quelque chose à ajouter à la jeunesse qu'Yves Robert a faite de cette exposition Parcours d'œuvre ? Quand est-ce qu'est né ce projet dans votre imagination ?
Ça faisait longtemps qu'au Centre d'art, on voulait un projet qui puisse fédérer plusieurs communes qui se trouvent dans le pays de Vassivière, certaines au bord du lac, d'autres un petit peu plus éloignées, du fait qu'on est sur une île un petit peu hors sol et qu'aucune des communes finalement ne s'approprie le Centre d'art car on est au milieu du lac. Et on avait commencé avec l'équipe par un projet 5 artistes dans 5 communes et des interventions d'artistes en milieu scolaire, dans des centres de loisirs, dans des foyers, qui nous permettaient aussi d'être présents, d'aller ce qu'on appelle hors les rives, à la rencontre des habitants des communes.
Ça, c'était, si mes souvenirs sont bons, en 2016.
Et puis, on avait commencé en 2014 aussi. Donc là, c'est une étape supplémentaire parce que grâce aux œuvres du CNAP, on peut amener l'art dans les bourgs, en fait, en cœur de bourg, de centre-ville, de ces communes. Certaines ont 50 habitants, d'autres moins de 1000 habitants parmi les communes que nous avons approchées. Et maintenant, 6 communes sont partenaires de Transhumance. C'est une grande première pour nous de faire ce parcours dans un territoire aussi large, parallèlement à l'exposition d'été.
Vous êtes la commissaire de cette exposition, en duo avec Sébastien Faucon, donc actuel directeur du musée d'art contemporain de Rochechouart, mais qui travaillait auparavant au CNAP. Comment le CNAP a reçu cette proposition de votre part ? Comment s'est passé le travail ?
Nous avons approché le CNAP avec l'idée de rechercher dans leur collection des œuvres pour l'extérieur, pour le plein air, des œuvres d'art public, mais aussi avec l'idée qu'on est dans un territoire rural et donc comment l'art contemporain peut jouer un rôle fédérateur dans ce territoire, comment la création aussi peut parfois mettre en valeur un patrimoine qui est sous-estimé parfois par les communes elles-mêmes. Et en y mettant une œuvre d'art à un emplacement qui est un petit peu insolite ou qui n'est pas forcément regardé, on peut permettre au public de voir d'autres aspects du village.
Ça veut dire que vous avez parcouru et visiter en profondeur et en regardant les détails les villages des bords du rive de lac de Vassivière, ou vous avez d'abord choisi des œuvres en tant que commissaire? Comment est-ce qu'on travaille ça?
Le CNAP nous avait fourni une sorte de réserve d'œuvres, entre guillemets, c'est-à-dire une liste d'œuvres potentielles qui étaient disponibles et qui pouvaient être montrées. Et ensuite, on a fait des rendez-vous avec chaque mairie, donc on en a approché 10 au total. Et c'était vraiment un processus de concertation, pas seulement avec les maires, mais parfois avec l'ensemble du conseil municipal et avec des habitants. De savoir dans quel lieu on pouvait implanter une œuvre existante, sachant que dans l'idéal, évidemment, une commande spécifique, une création, est toujours beaucoup plus appropriée au contexte. Mais là, on partait avec des œuvres existantes qui avaient la spécificité d'être des œuvres en évolution, des œuvres à protocole, c'est-à-dire des œuvres qu'on peut refaire, qui ont des modes d'emploi. Des œuvres éphémères. On voulait brasser un petit peu dans la collection du CNAP toutes les typologies d'œuvres d'art pour l'espace public qui puissent exister. Donc, l'espace public, ça peut être l'espace de la radio. Donc, effectivement, c'est là où on s'est aperçu que le CNAP avait toutes ses œuvres sonores commandées dans le cadre de l'atelier de création radiophonique de France Culture. Mais aussi des œuvres végétales qui sont amenées à disparaître, qu'on doit faire spécifiquement pour cette occasion. Des œuvres à protocole qui sont des œuvres qu'on doit refaire nous-mêmes, par exemple une performance. Des œuvres qu'il fallait complètement refaire ou revisiter. Et puis des œuvres qui demandent une très grande participation, à la fois de notre équipe, notamment de l'équipe de médiation qui va jouer un rôle crucial dans ce projet, puisque toute l'équipe est amenée à participer, à interpréter ses œuvres, à les rejouer, mais aussi de la part des visiteurs qui, quand ils vont parcourir les œuvres dans les communes, mais aussi celles qui sont exposées au centre d'art, pour certaines œuvres, il y a vraiment cette question de la participation. Qui est en jeu, qui est la grande question de cette exposition.
Est-ce que la participation en termes du choix des œuvres a généré des débats intéressants autour de l'art contemporain, par exemple au niveau des conseils municipaux, ou est-ce que ça a été particulièrement vivant pour vous ?
Ben, ça nous a vraiment mis dans une dynamique, nous, le Centre d'art, vraiment une dynamique vers la société, où ce processus en fait nous a permis d'avoir envie d'aller beaucoup plus loin pour l'avenir, c'est-à-dire de beaucoup plus impliquer les citoyens dans la décision, dans un partage en fait de nos projets. En amont, on s'aperçoit que les institutions culturelles sont parfois, c'est parce que c'est historiquement comme ça, hein, le directeur ou la directrice fait la programmation, on offre des choses au public. Mais on n'est pas forcément dans un rapport horizontal où le public va aussi contribuer à notre activité, va contribuer au savoir, va apporter ses compétences. Donc ce projet est vraiment une première étape pour nous, qui est complémentaire avec une nouvelle mission que le Centre d'art va avoir, de devenir un relais du dispositif des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, où on va être amené à accompagner des porteurs de projets pour commander des œuvres particuliers, associations, entreprises qui ont envie d'être commanditaires, vont être accompagnés par nous. Et donc Transhumance, pour nous, était une étape vraiment de développement du centre d'art pour essayer de travailler différemment dans un territoire rural.
Alors c'est une exposition très ambitieuse que cette transhumance parcours d'œuvre. Le centre d'art est assez familier de cette idée de parcours d'œuvre du fait du bois de sculpture. Il y a ce volet en extérieur dans les communes, il y a aussi l'exposition au sein du centre, avec donc cette réflexion particulière sur le rôle que l'art inscrit dans l'espace public joue dans la société. Est-ce qu'il y a un volet où ce rôle-là est manifeste dans les villages et un volet où on va réfléchir sur ce rôle dans le centre ?
Oui, c'est tout à fait ça. Avec l'exposition au centre d'art, on a cherché à avoir une extension du projet dans les communes. C'est comme pour nous un prolongement qui permet justement de réfléchir à qu'est-ce que l'art public dans l'espace public, mais aussi comment en fait cet art nous demande de participer, nous demande d'être en mouvement, de nous engager dans le monde, de nous engager dans la société. Parce que ce sont des œuvres qui posent des questions sur les utopies sociales. Il y a un certain nombre d'œuvres dans l'exposition, notamment l'œuvre de Maya Bayevich, l'œuvre de Shia Amarjani. Alors, je peux décrire un petit peu. Hein.
S'il vous plaît.
Maya Bayevich, elle a extrait des slogans de l'histoire des utopies sociales qui commencent tous par nous, par le collectif « nous ». Et elle en a exposé sept. Sept de ses phrases sont réalisées en néon et exposées dans le Petit Théâtre, tandis que les 140 et quelques autres phrases sont consultables dans des fiches, avec toute l'histoire de l'origine de ces phrases, en fait. Et à chaque fois, ces slogans ou ces injonctions, en fait, s'inscrivent dans une histoire... d'utopie, de volonté de changer la société. Il y a également ces grandes structures de Shia Amarjani, ce designer, architecte, artiste iranien qui vit aux États-Unis, qui a réalisé cette œuvre en hommage aux deux anarchistes italiens, Sacco et Vanzetti, qui ont été exécutés aux États-Unis. Et c'est une installation qu'on peut vraiment pratiquer, on peut s'y asseoir, on peut consulter... des documents, on peut lire un certain nombre de lettres.
Y a-t-il quand même des œuvres qui pointent peut-être des limites de cet engagement ? C'est-à-dire que, effectivement, les œuvres que vous décrivez sont des œuvres qui permettent d'entrer dans une certaine réflexivité par rapport à la question de l'engagement, ce qui est déjà en soi effectivement une position active. Est-ce que ça revient à s'engager pour autant ?
C'est vrai que certaines œuvres de l'exposition sont très participatives dans un sens qu'on a appelé l'esthétique relationnelle dans les années 90-2000, où il y avait, avec une certaine naïveté d'ailleurs, hein, mais l'idée que le spectateur, le visiteur d'une exposition peut participer à la cuisine, peut s'asseoir dans des sortes de modules. Il y a eu toute une série de modules de design et d'architecture de la participation. Et même s'il y a cet aspect-là dans l'exposition, avec par exemple l'œuvre de Marie-Ange Guillaumino, où le visiteur, la visiteuse peut créer des origamis en hommage aux morts de la bombe H d'Hiroshima, qui sont ces petits origamis en forme de grues, d'oiseaux en fait. Ou alors l'œuvre de Patrick Bernier et Olive Martin, qui est vraiment sur la question du collectif, de l'engagement à deux, puisque c'est un double métier à tisser qui se tisse de manière proportionnelle au temps de parole en fait, que ce dispositif va générer. Certaines œuvres, justement, font basculer cette question de l'utopie dans la surveillance. Donc, c'est l'œuvre de Dora Garcia, où une médiatrice, pendant toute la durée de l'exposition, hein, tous les jours, va décrire par écrit les faits et gestes des visiteurs qui rentrent dans la salle, mais aussi décrire la salle elle-même. Donc c'est dans la salle des études, au premier étage.
Là, effectivement, pour le coup, ça veut dire que le médiateur, la médiatrice en question devient complètement créateur, ou même auteur de sa description.
Voilà, et puis tous ces textes en fait, sont projetés sur un mur. Au départ, on commence à lire ces textes et puis progressivement, on s'aperçoit qu'ils parlent de soi. On se sent observé, on se sent surveillé. Et donc, on commence à interroger justement ce dispositif, l'intention de l'artiste. Et c'est évidemment ça qu'elle recherche, avec une posture critique hein, par rapport à des systèmes policiers, sécuritaires. Donc cette base de données ensuite est archivée et rejoint les archives de l'œuvre. Donc ce que je trouve aussi intéressant, c'est que l'exposition à Vassivière montre des œuvres en devenir qui sont amenées à évoluer, à être complétées. Et puis...
À propos de cette œuvre-là, est-ce qu'on peut imaginer à un moment qu'un spectateur qui en aurait envie remplace, par exemple, le médiateur ou la médiatrice ?
Dans le protocole de l'artiste, ce n'est pas prévu. Ensuite, toute situation, voilà, peut advenir et modifier le protocole. Bon, comme dans la vie, en fait. Hein. Une autre œuvre aussi qui est un petit peu à double tranchant, qui nous permet une autre position, c'est celle de Martin Le Chevalier, qui s'appelle Félicité. Donc, c'est une vidéo interactive. Nous sommes amenés à, avec une souris, donc c'est un CD-ROM, hein, ça, c'est une œuvre qui date aussi techniquement, à choisir en fait le devenir de ce film. Donc à choisir si ce modèle de société qui est proposé dans le film, hein, et qui est une fiction, va évoluer vers plus de liberté, par exemple, ou plus d'égalité. Et donc c'est à nous de choisir comment on veut que le film évolue. Donc on est placé dans un rôle de responsabilité sociétale. Et c'est ce que nous voulons aussi pointer en mettant des œuvres, en plaçant des œuvres dans les communes, au cœur de la vie d'un bourg.
Peut-être que dans les communes, je pense à cette œuvre d'une artiste dont j'ai oublié le nom, des sacs, des cabas, des sacs plutôt de voyage qui sont très régulièrement utilisés par les migrants et qui sont remplis de terre locale, donc, dont les graines vont pousser à leur bon gré. Est-ce qu'on peut imaginer que des villageois viennent y planter des légumes ?
Pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu, mais donc Jardin suspendu, effectivement, est cette œuvre en sac de jute de Mona Hatoum qui est présentée à Peyrales-Château.
Oui, je pensais à une autre, mais effectivement, il y a celle-ci.
Ah oui, donc il y a aussi l'œuvre de La Ville-Dieu, pardon, de Loïs Weinberger, qui est cet artiste autrichien de l'art écologique très important, Portable Garden de 1994.
Il y a des liens très forts entre ces deux pièces, ces deux propositions, je trouve. L'une évoque le voyage, l'autre prend plutôt la forme d'un mur. Pour moi, ça peut symboliser quelque chose de la, entre guillemets, crise migratoire que nous vivons tous actuellement.
Compris en zone rurale, avec la création des CADA et des CAO. Donc, nous avons choisi ces œuvres aussi pour cette raison-là. À chaque fois, pour chaque commune, on s'est interrogé quel est la meilleure, le meilleur contexte, le meilleur lieu, qu'est-ce qui reflète l'histoire de la commune ou les interrogations actuelles de cette commune et de ses habitants. Pour la Ville-Dieu, c'est une commune qui est une terre d'accueil depuis longtemps, avec l'accueil de réfugiés espagnols déjà du temps de la guerre d'Espagne jusqu'à maintenant, avec la création d'un appartement par la commune pour accueillir des migrants. Et pour Peyrales-Château, avec Mona Hatoum, ben c'est parce qu'il y a eu la création du CAO à Peyrales il y a un an et demi, qui modifie à la fois la composition de la population, mais aussi la vie associative, puisque de nouvelles initiatives se créent
des migrants. Oui. Entre autres, une résidence qui a été donc proposée par le FSIAP et qui nous vaut l'honneur aujourd'hui d'être avec Reto Pulfer, artiste suisse-allemand, actuellement en résidence au FSIAP, donc un habitué presque, puisque vous avez déjà exposé au Centre d'art de l'île de Vassivière. Je me suis demandé, vous vivez à Berlin, est-ce que le Centre d'art de l'île de Vassivière est devenu pour vous une sorte de lieu de transhumance ?
Oui, je pense que c'est devenu comme une deuxième ou troisième maison, parce que j'ai déjà visité l'île quatre fois, je pense, et donc j'ai commencé à comprendre beaucoup plus qu'après la première visite. Et donc en ce moment, je fais un dessin de A2, format A2, d'une carte géographique du plateau. Donc, avec toutes ces expériences dans les derniers voyages où j'étais ici, ils sont toutes dedans. Donc, il y a les communes et les choses que j'ai fait ici dans une carte qui regroupe tous ces projets. Ça, ce que je réfère, c'est mon travail que je fais à un moment avec le mairie de Peyre-le-Château. C'est donc le projet que j'ai postulé pour cette résidence sur l'île de Vassivière, où je travaille dans une... Je fais des cours de dessin avec les réfugiés. Ils sont dans une situation transitoire dans les gîtes de Peyre-le-Château, où ils attendent les papiers, en fait. Et on fait des dessins, et la base de cette idée, c'est de créer des dessins géographiques de où ils sont en ce moment. Donc, ça veut dire Peyre, la mairie où il prend des cours qui sont gérés par des bénévoles, ou le supermarché, ou peut-être les voyages qu'il fait autour de la commune. Mais ça se base sur des dessins que j'ai fait de lieux où j'ai visité ou habité, alors même Caire, ou Le Caire, ou Hong Kong, ou Berne en Suisse. Mais quand on a commencé à faire ces cours de dessin, ils ont vraiment pris aussi la liberté de dessiner ça ce qu'ils voulaient. Il y avait des gens qui ont même retravaillé leurs fuites ou des images de leur pays. Et peut-être la moitié, ils ont commencé à peindre ou décrire Peyre-le-Château. Donc... le village, l'étang et leur maison.
En tant qu'artiste, est-ce que ce que vous proposez donc, dans cet atelier, des cours de dessin, mais peut-être quelque chose qui va au-delà du cours de dessin, est-ce que ça a un lien avec votre pratique habituelle ou pas du tout?
Oui, c'est normalement c'est la première fois que je fais un cours comme ça, mais c'est très lié que je me suis inspiré beaucoup des voyages et que j'ai fait des cartes comme ça moi-même. Et une autre chose, c'est ça m'intéresse beaucoup comment ils peignent parce qu'ils n'ont pas une formation d'artiste et moi non plus. Alors j'aime bien leur façon à exprimer quelque chose et où je veux pas choisir ou juger le dessin au niveau du côté artistique, mais plutôt au niveau de l'expression, ça qui a été choisi pour faire public. Et la langue de cet dessin, ça veut dire le symbolisme personnel ou le choix des motifs ou l'expression des choses, ça m'intéresse beaucoup.
Toutes choses qui peuvent tout de même avoir avec... l'art.
Exactement.
J'espère que nous aurons l'occasion de reparler du travail effectué lors de cette résidence, une autre fois sur Radio Vassivière. Il se trouve que là, dans le cadre de Transhumance, vous avez aussi répondu à une commande du Centre National des Arts Plastiques pour une œuvre sur l'île de Vassivière. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail? Quelle forme avait la commande quand on vous l'a confiée? Quel était l'intitulé de cette commande?
Alors, on m'a demandé à faire une œuvre protocole. Donc, pour moi, c'était une idée très fluxus. Donc, on va faire des glaces, l'installation avec les glaçons qui devient l'eau avec le soleil et tout ça. Et j'aimais très bien cette idée. Et en même temps, il a tous ces aspects végétaux où je commençais à travailler plus avec des plantes et faire quelque chose d'éphémère. Et à base de ça, j'ai créé une sorte de ruine. Ce sont des pierres il y a un axe dans les pierres qui monte vers l'étoile Antares, une étoile très rouge du scorpion. Donc c'est le lever de l'étoile. Et dans cette... prairie des pierres, il y a des orties qui poussent que j'ai transplantées de l'île, et le thym sauvage et la fougère.
Comment ça, transplanter?
Alors ça veut dire je prends une pelle et je cherche le rhizome, mais je ne sais pas le détruire, et après je l'amène directement à la sculpture. on donne un peu de l'eau et il y a certaines qui restent, autres qui où je coupe la tiège.
Vous les taillez un peu.
Oui, exactement.
Les orties ont pris, j'ai entendu dire que c'était très difficile de faire prendre des boutures d'orties.
Alors, oui, c'est vrai. Si on fait ça avec beaucoup de violence, il fait beaucoup, ça peut faire mal aux mains, comme tout le monde sait. Mais si on fait ça tranquillement, il ne fait pas mal, en fait, doucement.
L'ortie, cette plante magnifique. Donc, vous taillez les plantes que vous avez plantées au pied de...
Autour, c'est dans les pierres. Donc, c'est comme une forme, peut-être comme un poisson, on peut dire. Et autour de cette structure qui fait peut-être 8 sur 3 mètres, il y a la prairie qui est gérée par le syndicat de Lille. Donc, ils coupent la prairie 2 ou 3 fois par an pour... je ne sais pas s'ils ramassent l'air pour les animaux. Mais alors, donc, la prairie c'est s'inscrit dans ce paysage et... dans les prochaines années, la prairie va retourner, elle va prendre la structure, mais aussi la structure va, je pense, reprendre la prairie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va passer avec le combat des plantes.
Et du minéral. Quelle serait la définition d'une œuvre à protocole ? Tout à l'heure, avec Yves Robert, nous parlions des œuvres à protocole donc, qui peuvent être activées, réactivé, donc selon une sorte de cahier des charges très précis. On n'a pas du tout parlé de la dimension temporelle d'une œuvre et peut-être de sa disparition.
Donc, il y a un protocole que j'ai déjà fait. Alors, ça veut dire, ça définit le longueur et la largeur de la sculpture, ça définit les plantes qui peuvent être utilisées. Alors, j'ai fait un protocole avant d'installer ça qui est assez ouvert. Ça veut dire on prend les plantes et les pierres locales et on les transplante, on consulte un herboriste, on creuse, on prend une pelle pour creuser, tout ça. Donc, il y a ce protocole et en même temps, je fais un protocole post-installation pour montrer comment j'ai fait ça parce que le protocole fait partie de la collection du CNAP maintenant. Ça veut dire quelqu'un peut louer la pièce et la refaire selon le protocole. Mais si ce n'est pas moi qui va le faire, ça, bien sûr, ce serait indifféremment. Mais en même temps, j'aime aussi bien cette idée que c'est une proposition ouverte qu'on peut prendre des autres plantes où on peut installer un peu différemment ailleurs.
Pourquoi avoir choisi cette étoile particulière ? Est-ce que cette étoile-là est vraiment inscrite dans le protocole ?
En fait, dans le premier protocole, il y a le soleil qui est inscrit, mais on n'a pas trouvé un bon lieu qui donne une vue directe sur l'horizon. Et là, le lieu qu'on a choisi, on voit une colline qui est, je pense, 10 km plus loin. Et là, j'ai choisi Antares parce que j'aime bien l'étoile et on le voit très bien dans la nuit de l'été. Et j'ai commencé aussi à travailler avec la couleur rouge. Normalement, je travaille beaucoup avec le bleu et le rouge jusqu'à parfois des détails. Et donc ça, je me suis intéressé à ça. Et manifester ce rapport avec le rouge et aussi planter 3 plantes de chili qui va faire des chilis rouges au milieu de la sculpture.
C'est du coup un travail plutôt sensible. Est-ce que ça part de votre imaginaire ? Est-ce que c'est du symbolisme ? Est-ce que c'est...
Alors, les orties et la fougère, le thym, ce sont des choses qui revient souvent dans mon travail pour des raisons différentes. Et par exemple, je pense qu'il y a les choses communes que l'ortie et le chili, c'est quelque chose qui pique, qui se défendre. Et l'ortie, c'est une plante très forte qui pousse un peu partout et qui est une plante médicale qui vit en rhizome. Et pour ça, j'aime bien ça. Et aussi, je me demande pourquoi il y a une plante comme le chili qui crée quelque chose d'assez puissant. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Que cette couleur rouge aussi dit attention, en fait. C'est assez puissant.
Et du coup, la présence de l'astre là-dedans, est-ce que c'est une cosmologie personnelle? Est-ce que c'est le fait que cette étoile intervienne ou alors c'est basiquement pour donner une orientation à l'œuvre ou...
C'est pour lier l'étoile rouge avec l'installation, pour donner une orientation. Et j'aime aussi bien la constellation de Scorpio, le Scorpio, parce que c'est une constellation qui vraiment ressemble à un Scorpio. Il y a d'autres constellations qui sont plus dans l'imaginaire, où c'est pas trop clair pourquoi on appelle ça le Verseau ou le Scorpio, c'est vrai, très visiblement un Scorpio.
Le Centaure aussi, une fois je l'avais jamais vu, et j'ai repéré un groupe d'étoiles, je me suis dit c'est fou comme ça ressemble à un cheval.
Ah, ouais.
Et ensuite je me suis rendu compte que c'était la constellation du Centaure.
Ah, ouais.
Et ça, j'ai été beaucoup ému de me dire que d'autres l'avaient vu avant moi. Qu'est-ce que ça change quand on imagine une œuvre en extérieur ou une œuvre en intérieur?
Ah, il a, en fait, c'était joli, je parlais avec ça avec d'autres artistes et on se disait, si tu fais une installation dedans, il faut toujours penser qu'il y a des choses qu'il ne peut pas marcher. Peut-être on oublie un outil ou on oublie du matériau, ou il y a quelque chose qui ne marche pas, la colle va tomber par terre, l'œuvre va casser, etc. Mais si tu fais quelque chose dehors, il faut encore ajouter des jours en plus, parce que il pourrait être une tempête ou trop de chaleur ou la tractopelle est cassée. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités.
Je me posais la question encore sur des œuvres à protocole. Pour en revenir à l'axe de recherche de l'exposition, est-ce qu'une œuvre à protocole porte une charge particulière par rapport à une œuvre qui ne serait pas à protocole, que ce soit je sais pas, une charge j'imaginais politique ou autre?
Pour moi, c'est plutôt une question qui touche à la collection, c'est-à-dire que quand on pense collection d'œuvres, on pense objet fini. Pour un parc de sculptures, notamment, on a une île et puis on la remplit d'objets. Ça, c'est le pire des parcs de sculptures. En tout cas, c'est ce que j'essaye de ne pas faire aujourd'hui, parce que je souhaite une collection en mouvement et qui soit à la fois en mouvement temporel, avec évidemment le cycle des saisons. Certaines œuvres sont visibles l'été, d'autres l'hiver, etc.
Il y a l'œuvre fameuse d'Andy Goldsworthy qui...
Voilà, le cycle de l'eau, mais qui est artificiel, puisque c'est EDF qui maîtrise le niveau du lac. Les œuvres qui sont vouées à disparaître, tout simplement parce que leurs matériaux sont éphémères. Et les œuvres à protocole, en fait, mettent l'équipe aussi en mouvement, parce que ça nous demande de les refaire chaque année. De les interpréter, d'en avoir une connaissance très approfondie. Je trouve que quand on réalise une œuvre à protocole, on doit vraiment étudier plus que pour une autre œuvre les intentions de création de l'artiste. On se pose en fait beaucoup de questions, parce qu'on doit faire des choix. Et ensuite, ce qui est plus difficile pour nous, c'est de transmettre cette nature changeante au public. Donc ça, c'est le défi hein, en ce moment du Centre d'art, d'arriver à transformer ce modèle du parc de sculpture, qui est un modèle figé, un modèle daté des années 80, en une autre forme d'espace public, dans lequel on aurait différentes temporalités, différents niveaux de lecture, où les œuvres ne sont pas des objets voilà, qu'on plante là parce qu'il y a un carrefour ou qu'il y a une avenue qui mène à un beau point de vue. Et pour cela, il faut être aussi beaucoup à l'écoute des artistes, de leur manière d'être, de sentir ce paysage, parce que ce sont eux qui choisissent les emplacements, les matériaux. Dans le cas de Rétopulfeur, mais c'est aussi le cas de la deuxième œuvre nouvelle qui est également commandée par le CNAP.
De Liliana Mota.
Ce qui était important pour moi, c'est aussi d'avoir des choix de matériaux qui ne sont pas des matériaux comme de la résine ou du béton, qui vont ajouter un nouvel objet à l'île ou qui vont ajouter un nouveau matériau.
Une nouvelle chimie.
Voilà, mais qui vont s'auto-dégrader, évoluer avec le paysage.
Pour moi, il y a aussi un côté politique, que ça veut dire que l'œuvre n'est pas l'objet qui se représente, qu'il faut mettre dans une archive ou qu'il faut, comment dire, polir.
Faire briller, oui.
Faire briller, oui. Donc, j'espère qu'on peut aussi vendre et revendre une œuvre à protocole, mais normalement, c'est pas comme les objets et les peintures. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que ce qu'on veut faire avec des pierres et les orties, on met dans un archive, ça sert à rien.
On peut prendre des photos quand même pour l'archive.
Et je trouvais aussi intéressant cet aspect de travailler avec des plantes, que ça veut dire que c'est quelque chose qui vit et qui change et qui peut être refait, qui a une vie à soi.
Et qui sera aussi toujours différent.
Oui, et qu'il a une fragilité et qu'il sera différent, oui.
Pour l'artiste, c'est aussi un défi de faire une œuvre comme celle-ci. Nous avons choisi Rétopulfeur parce qu'il avait déjà dans sa pratique des formes de partition, d'écriture automatique, parfois inconsciente, de relations aussi au rythme, à la musique. Il y avait déjà sur tes œuvres, sur tes dessins, beaucoup d'écriture, beaucoup de... Et puis, tu avais réalisé cette œuvre aussi où tu énonces les constats d'état des œuvres, c'est-à-dire quand on ouvre une caisse, on doit faire l'état de l'œuvre. Est-ce que l'œuvre est endommagée? Combien il y a d'éléments, etc. Et donc, Reto en avait fait une œuvre. Et...
Quelle forme prenait-elle, cette œuvre?
Alors, j'ai lu le constat des œuvres, où ça veut dire, par exemple, il y a de papier cassé, il y a la boue partout, où il y a des de bobins, de fil, ou un pierre, une boîte de carton.
Mais tu décrivais aussi les emballages des
œuvres. Oui, les emballages, oui. Et j'ai enregistré les emballages.
Et donc, c'est suite à ça qu'on a imaginé que Rétopulfeur, même si tu n'avais jamais fait d'œuvre à protocole, tu pouvais être un artiste à même de proposer ça. Ça pouvait, pour ton travail aussi, développer autre chose, une autre manière de travailler.
Oui, c'est vrai, c'est comme une challenge, en fait, pour faire ça. Parce que ça me aussi permet de dire qu'il y a des choses que je ne contrôle pas, où il y a une ouverture, une flexibilité. Et pour moi, c'était très important à vraiment faire un expériment avec les orties, parce que j'ai commencé à faire des essais, comment je peux transplanter ça dans mon studio. Mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer avec les autres plantes, comment ils vont
réagir
mêler
entre elles.
Oui, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi lié là aux cartes géographiques, parce que ça veut dire quoi si on fait une pièce comme ça dans une zone climatique très différemment, on ne peut pas prendre le thym et les orties parce que ça ne pousse pas, ou il n'y a pas les pierres, ou... Alors, ce sont toutes les questions comme ça, ou l'interprétation des gens. Je me suis imaginé même comment ça serait si on installe la pièce sur la Lune dans 100 ans. C'est possible, parce que si le CNAP est toujours là, il aurait le protocole. Donc, je pensais, alors il y a des pierres de la Lune.
Il faut trouver des plantes lunaires.
Exactement.
C'est un grand défi pour les botanistes. Alors, le vernissage de Transhumance se déroulera sur l'ensemble du week-end des 24 et 25 juin, du samedi à 14h au dimanche à 14h, avec un temps fort au centre d'art, samedi 24 juin, entre 18h30 et 22h. De quoi sera composé ce temps fort ?
Ben, on souhaitait plusieurs vernissages, en fait, parce que d'habitude, il y a un temps fort au centre d'art. Et là, c'était très important pour nous que le public qui soit invité, ben, certains, ce sont des professionnels qui viennent de Paris, des journalistes, puissent faire avec nous l'ensemble du parcours dans toutes les communes. Donc, on n'a pas cité la liste des communes, hein, mais Saint-Amand-le-Petit, Peyrat-le-Château, Beaumont-du-Lac, Ned, La Ville-Dieu, Jansioux-Pigerol. Les œuvres implantées dans les communes font autant partie de l'exposition que l'exposition au centre d'art. Et au centre d'art, on a une projection en plein air prévue le samedi soir, qui est une réactivation d'une œuvre de 1989 qui s'intitule « Vidéo aux zones ». Qui a été faite par un collectif de plusieurs artistes, Bernard Justen, Pierre Joseph, Dominique Gonzalez-Foster et Philippe Parrainot. Ce sont des artistes très importants, plutôt des années 90, début 2000.
Mais quand même toujours...
Et toujours actifs, effectivement, chacun individuellement aussi, et parfois en collaboration. Et c'est un écran gonflable géant dans lequel est projeté un film qu'ils ont co-réalisé tous ensemble, plutôt sur des questions d'écologie, de protection de l'environnement et des dégâts, des désastres sur l'environnement. Donc,
vidéo voilà. Zone.
Voilà. À découvrir.
À découvrir. Et donc, avec quand même une visite de l'exposition au centre d'art.
Et une visite guidée, comme on le fait avec le commissaire associé, Sébastien Faucon. Une performance surprise d'Aurore Mandandak, si on arrive à rassembler tous les figurants pour le vernissage. Et une belle soirée, parce qu'il va faire très beau.
Et à la fin, tout le monde dans l'eau. Tout à l'heure, vous disiez que la médiation serait très importante tout au long de cette exposition. Quelle sera la fréquence des visites particulières ou des rencontres avec le public ? Donc ça dure quand même jusqu'au 5 novembre prochain. C'est une très longue exposition,
enfin, oui.
Plutôt d'une bonne durée. Comment pourra faire le public pour voir cette exposition en dehors de ce vernissage ?
On est ouvert en juillet et août tous les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h. Et puis le reste de l'année, du mardi au dimanche et les jours fériés de 14h à 18h l'après-midi. Pour chaque visiteur, il y a un accueil personnalisé à la librairie. Certaines œuvres sont en extérieur, par exemple sur l'île de Vassivière. Il y a aussi une œuvre sonore de Georges Tonistol, l'œuvre de Dominique Petitgan, les œuvres effectivement de Liliana Motta et de Reto Pulfer. Il y a une œuvre dans le phare qui est en accès gratuit. L'exposition au centre d'art coûte 2 euros ou 4 euros et vous êtes accueillis toujours par des médiateurs. Donc cette année, ce sont des médiatrices, nous en avons 4 qui s'alternent dans l'exposition car, comme je vous l'ai dit, les œuvres demandent un grand engagement de notre équipe pour être activées. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui vous explique comment faire un origami de Marie-Ange Guillemineau, comment tisser dans le métier à tisser de Patrick Bernier et Olive Martin, quelqu'un qui vous surveillera, mais on ne vous dit pas où, un ballon de Roman Signer qui, si jamais il n'y a pas assez de soleil pour créer une pression dans les 4 bidons que nous allons exposer en plein soleil, eh bien, il va soit se dégonfler complètement, soit explosé s'il fait trop chaud. Donc de temps en temps, il y aura aussi des explosions dans l'exposition.
Vous avez beaucoup de ballons de rechange ?
Oui.
Donc c'est quand même un très 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 beau programme à voir à partir de ce 24 juin et jusqu'au 5 novembre au Centre d'art de l'île de Vassivière dans le bois de sculpture et à Beaumont-du-Lac, Jansioux-Pigerol, La Ville-Dieu et bien d'autres communes. et évidemment sur Radio Vassivière tous les soirs à 23h pour découvrir une pièce sonore d'artistes très très différents.
Ouais, c'est formidable que Radio Vassivière ait pu s'engager sur une si longue durée à diffuser chaque jour à 23h une œuvre sonore différente. Pour nous, c'était vraiment une partie importante du projet aussi que l'espace public est aussi sur les ondes et voilà, pas seulement physiquement.
Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous aussi.
Merci.
Merci Reto Pulfer d'être venu, à très vite. Merci Marianne et merci à tous et à très bientôt.
Merci.